Bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
Croyez-vous qu'il soit possible que je devienne psychiatre un jour ?
Vous avez exactement le profil recherché.
Une folie galopante.
Oui, nous autres médecins non fous sommes très limités.
L'un des apports les plus importants de la psychanalyse était d'avoir introduit le conflit et l'angoisse à l'intérieur d'un esprit sain. D'avoir fait entrer ce qu'on nomme un problème au sein de la normalité psychique. Alors parler de santé mentale a-t-il encore un sens ? Alors la psychiatrie, dont la fonction est de traiter la maladie mentale, peut-elle ne pas entrer en conflit avec la psychanalyse ? Rien n'est moins sûr. Cette semaine, comme chaque semaine, a été préparée par une équipe chic et de choc qui se joint à moi pour vous saluer Antoine Ravon, Marianne Chassor, Lucie Tardy et Colomba Grossi. À la réalisation cette semaine, Nicolas Berger, à la prise de son aujourd'hui, Emmanuel Morse-Duncan, et celle que vous retrouvez tous les jours à 10h51 pour ces 2 minutes papillon, c'est Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Une psychanalyse du texte tout à l'heure à l'occasion de la parution d'une poétique du point de suspension, c'est de Julien Rau et c'est paru aux éditions Cécile Defaux.
Suspense jusqu'à 10h51 donc. Les mots de la psychanalyse, quatrième et dernier temps. Après Dorian Astor et Paul-Laurent Hassoun, qui lundi se sont intéressés à la pulsion de mort dans le malaise dans la culture, en présence de Johan Svar, qui nous proposait ses dessins macabres en direct. Après Clotilde Le Guil et Colette Seller, qui se sont demandé si la femme existait bel et bien, mardi. Et Laurence Kahn et Serge Tisseron, hier, qui se sont interrogés sur la place de l'empathie dans le transfert. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir le professeur émérite en psychopathologie Roland Gori et le philosophe spécialiste de l'histoire et de la philosophie de la psychiatrie Steve Demazeux pour réfléchir sur les liens pour le moins compliqués entre psychanalyse et psychiatrie.
Adrien Monk pour le docteur Sorensen.
Bonjour. Remplissez ça.
Il est écrit liste de toutes les phobies.
Exact.
Il n'y a que 5 emplacements.
Utilisez le verso de la page.
J'aurais besoin d'une autre feuille.
Bonjour à vous, Roland Gori. Roland Gori, est-ce que vous m'entendez ? Je vous salue en premier.
Oui, je vous entends.
Ah, voilà. Vous n'êtes pas avec nous en studio, vous êtes dans les studios de France Bleu, ex-Marseille, France Bleu Provence, n'est-ce pas ?
Absolument, vous m'entendez ?
Je vous entends très bien et vous devez entendre en même temps, ainsi que les auditeurs, l'alarme incendie qui a lieu en ce moment même à la maison de Radio France. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'incendie, donc tout va bien. Roland Gori, vous êtes donc professeur émérite de psychopathologie clinique à l'université d'Aix-Marseille et psychanalyste et auteur d'un ouvrage qui est sorti cette année qui s'intitule « L'individu ingouvernable » aux éditions des Liens qui libèrent. Et donc pour discuter avec vous aujourd'hui se trouve en studio cette fois-ci Steve Demazeux, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes quant à vous maître de conférences en philosophie à l'université Bordeaux-Montaigne, spécialisé en philosophie des sciences et en particulier à l'histoire et la philosophie de la psychiatrie, et l'auteur d'un ouvrage paru aux éditions Itac qui s'appelle « Qu'est-ce que le DSM ?» On va y revenir parce qu'effectivement c'est une question qui va être centrale aujourd'hui. Alors pour commencer peut-être Roland Gori, comment se fait cette naissance de la psychanalyse dans un contexte où la psychiatrie elle-même est une instance de médicalisation ? Est-ce que la psychanalyse a pour fonction d'apporter une forme de soin qui ne soit pas médicalisée. Est-ce qu'on peut parler comme ça d'instance de démédicalisation avec la naissance de la psychanalyse ?
Michel Foucault disait que la psychanalyse constituait la première forme d'antipsychiatrie. C'est-à-dire, si vous voulez, à un moment où effectivement la psychiatrie a tendance à mettre sur le compte de l'hérédité, de la dégénérescence, voire de l'excitabilité cérébrale, les troubles psychonévrotiques ou les troubles psychopathologiques, je crois que Freud donne au sujet une forme de responsabilité. Forme de responsabilité que, justement, le sujet est en train de perdre en tant que citoyen, citoyen des Lumières, pour aller vite, à la fin du XIXe siècle. Donc je crois qu'effectivement, il ne s'agit plus, pourrait-on dire, de considérer que les troubles névrotiques, par exemple, ou voire les troubles psychotiques, sont de l'ordre du déficit, sont de l'ordre de la dégénérescence, sont quelque chose qui dysfonctionne simplement, mais avec Freud, ces troubles-là prennent un sens, ils disent quelque chose à la fois de l'histoire individuelle et de l'histoire collective.
Steve Demazeau.
Oui, à partir de la naissance de la psychanalyse, moi, le travail qui m'a intéressé, c'est de travailler sur ce retrait spectaculaire de la psychanalyse qu'on constate au tournant des années 80 aux États-Unis et puis progressivement ensuite en France. Et la question qui se pose est de savoir à quoi tient précisément ce retrait, cette perte de prestige à l'intérieur même du discours psychiatrique. Est-ce qu'il y a de bonnes raisons épistémologiques à cela, ou est-ce qu'il faut plutôt opérer un diagnostic social ou sociologique pour essayer de comprendre ce retrait, qui est un retrait inédit?
Mais est-ce qu'on peut dire, et là je pose la question à tous les deux, que la psychanalyse, et c'est pour ça que c'est important de remonter jusqu'à la naissance de cette discipline, se présentait comme une alternative à la psychiatrie? Vous avez parlé d'antipsychiatrie, Roland Gori. Est-ce que ça veut dire que la psychanalyse serait une façon de jeter le trouble sur la limite entre la santé et la maladie, entre le raisonnable et la folie, et une manière du coup d'incorporer ce qui a avant été du registre de l'anormal au sein même de l'individu? Roland Gori.
Oui, alors effectivement, si nous partons du moment où émerge la psychanalyse, on constate à ce moment-là que cette forme de savoir qui est en train d'émerger, elle est indissociable, si vous voulez, de toute une série de facteurs sociaux, culturels, politiques qui mettent l'individu et la société en crise. C'est-à-dire que la psychanalyse, elle est d'une certaine manière une réponse à la crise des valeurs libérales, à la crise des pratiques libérales de gouvernement des individus et de la société. Je crois que c'est un point très important. C'est-à-dire que, pour aller très vite, si vous voulez, à la fin du XIXe siècle, s'effondre l'illusion libérale d'un individu autonome, rationnel, responsable, qui peut finalement guider sa conduite et qui contracte librement avec les autres. Ça tient plus la route du tout. Ça tient plus la route. Et à partir de ce moment-là, vous voyez la psychiatrie avancer avec, je dirais, les billes, si je peux me permettre, d'une pseudo-science, du côté de la dégénérescence, du côté des facteurs organiques, du côté de la localisation cérébrale des troubles psychiatriques. Ça marche pas. Ça ne marche pas du tout. Et je pense que Freud, mais avant Freud, Janet d'une certaine manière, Bernheim, Charcot à sa façon, propose une solution. C'est-à-dire que, par exemple, Charcot, bien sûr, lui, c'est un neurologue, il va imputer à l'hystérie les causes d'une lésion fonctionnelle du cerveau, mais il n'empêche, il va se faire, voyez, le passeur d'une autre manière de concevoir le sujet. Et il faut bien voir que Charcot, il est neurologue, et il s'oppose aux psychiatres de l'époque. C'est un point très important. C'est-à-dire que on a, avec Charcot, la reconnaissance, pourrait-on dire, de presque de la nature hystérique de l'humanité.
Et d'ailleurs, Freud va écrire dans une lettre à Martha, c'était le 24 novembre 1885, ceci: Charcot, dit-il, qui est l'un des plus grands médecins et dont la raison confine au génie, est tout simplement en train de démolir mes conceptions et mes desseins. Il m'arrive de sortir de ses cours comme si je sortais de Notre-Dame, tout plein de nouvelles idées sur la perfection. Mais il m'épuise, ajoute-t-il, et quand je le quitte, je n'ai plus aucune envie de travailler à mes propres travaux si insignifiants. La graine produira-t-elle son fruit ? Je l'ignore, mais ce que je sais, c'est qu'aucun homme n'a jamais eu autant d'influence sur moi. On voit ici qu'en 85, Freud ne s'est pas encore détaché de cette entreprise, disons, de médicalisation.
Oui, mais je crois que c'est le point très important, si vous voulez, c'est l'hystérie. C'est-à-dire que l'hystérie, c'est la compagne originelle de la psychanalyse. On peut dire que c'est vraiment grâce à la reconnaissance du fond hystérique du sujet humain que la psychanalyse peut émerger. Et ça, c'est grâce à Charcot. Et c'est aussi grâce à Bernheim. C'est-à-dire à un intérêt pour tout ce qui est suggestion, influence, et qui vient, voyez, en rupture avec l'illusion libérale d'un sujet autonome qui pourrait contracter librement avec les autres. C'est un point qui est très très important. Mais Charcot, Bernheim, Janet ne sont pas psychiatres. Le point important, par rapport à votre question, Adèle, de tout à l'heure, le point important, il est là. C'est-à-dire que paradoxalement, ce sont les neurologues qui vont permettre l'émergence de la psychanalyse en contrepoint de la psychiatrie.
Voilà, alors,
et là, je crois qu'il y a...
Allez-y, je vous en prie.
Oui, non, je crois que là, il y a vraiment une découverte fantastique. On le voit bien d'ailleurs dans les premiers textes freudiens, dans la fraîcheur des premiers textes freudiens, ce qui était mis sur le compte d'un dysfonctionnement, d'un déficit, d'un dérapage de la machine, parce que c'est tout de même quand même cette figure du sujet humain comme automate et machine qui, à ce moment-là, menace la civilisation, la culture, ben Freud il dit, ben non, ça sert à quelque chose de symptôme, ça a un sens. Et comme vous l'avez dit au début de l'émission, le conflit, il est l'essentiel même du psychisme.
Steve Demaze, oui. Comment la psychiatrie réagit à la naissance de cette nouvelle discipline qu'est la psychanalyse? Est-ce qu'elle se durcit et se surmédicalise encore davantage?
Alors justement, là, on voit en évoquant Charcot et Freud, la position très complexe que va adopter la psychanalyse dès le départ à l'égard de l'institution psychiatrique, puisqu'elle se pose effectivement... comme un enrichissement d'abord de la théorie psychiatrique et puis très vite comme une alternative. Juste pour clarifier des termes et rappeler quelques évidences aux auditeurs, la psychiatrie a été fondée depuis Pinel comme une médecine spéciale, c'est-à-dire très longtemps c'était une branche qui était indissociable de la neurologie. Il faut attendre les années 68 en France pour que la psychiatrie vraiment se détache de la neurologie. Donc c'était une science qui a été bâtie dès le départ sur le discours médical. Et Freud lui-même, faut-il le rappeler, a été quelqu'un qui était profondément imprégné du discours neurologique. La psychanalyse, dès le départ et pendant tout le XXe siècle, va chercher à se définir par rapport au discours psychiatrique. Et si la question est si complexe, c'est que suivant les auteurs, les solutions apportées seront très différentes. Il y aura des auteurs qui auront toujours, par exemple Lacan, qui était lui aussi psychiatre, mais qui auront toujours beaucoup de répugnance à vouloir inclure la psychanalyse intérieure des murs de l'hôpital. Et aujourd'hui encore, quand on réfléchit sur la psychiatrie et sur la psychanalyse, il faut se souvenir que quand on réfléchit en termes de métier, il y a trois catégories de psy. Il y a le psychiatre, qui est un médecin, il y a le psychologue, qui suit une formation à l'université psychologue, et puis il y a le psychanalyste. Et le psychanalyste est soit psychiatre, très souvent, soit psychologue, très souvent aussi, soit ce qu'on appelle, alors c'est une catégorie un peu condescendante, en tout cas pas très engageante, les ninis, c'est-à-dire les psychanalystes qui sont ni psychiatres, ni psychologues. Et entre ces trois possibilités pour la psychanalyse d'exercer un métier, il va y avoir de grandes tensions tout au long du XXe siècle et qui vont se cristalliser, particulièrement en France, au début des années 2000.
Mais où la tension se situe-t-elle précisément entre psychiatrie et psychanalyse? Est-ce uniquement sur l'aspect de médicalisation et la définition de ce que serait qu'un esprit normal?
Alors, elle se situe tout d'abord sur la finalité même de la psychanalyse. Est-ce que la psychanalyse a pour vocation de guérir des malades? Il y a vraiment... Freud avait évidemment comme vocation de proposer une nouvelle thérapie, une nouvelle forme de thérapie qui allait soigner les patients. Mais très vite au XXe siècle, et particulièrement quand on cherchera ensuite à évaluer l'efficacité des psychothérapies et des cures psychanalytiques en particulier, des psychanalystes vont dire... Non, ça n'est pas du tout le but de la psychanalyse que de traiter, que de guérir, sous-entendu que d'adapter le sujet à la société, mais son but principal est de révéler la vérité des symptômes au sujet lui-même. Et donc, d'une certaine manière, le psychanalyste devrait se garder de vouloir à tout prix guérir son patient. Donc ce sera une tension qu'on va rencontrer et qui sera vraiment continue tout au long du XXe siècle.
Roland Gori ?
Oui, alors, si vous voulez, je voudrais peut-être préciser un point que j'ai à peine esquissé tout à l'heure. Freud ne s'inscrit pas dans le champ des aliénistes, dans le champ de la psychiatrie. Il s'inscrit davantage dans celui de la neurologie, de la neuropathologie. Et d'ailleurs, Charcot, également la Salpêtrière, c'est du côté de la neurologie. Donc je crois que c'est un point important, puisque, encore une fois, ce sont des médecins non-psychiatres, comme Charcot, comme Bernheim, comme Janet, qui vont d'une certaine manière permettre à Freud d'accueillir une autre manière de penser le sujet humain. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, à mon avis, c'est que Freud, si vous voulez, essaie d'abord de guérir ses patients. Quand il s'installe, si vous voulez, en 1986, n'est-ce pas, comme médecin, c'est pour guérir des patients névrosés, c'est-à-dire des patients malades des nerfs. Vous voyez, c'est un point très important, puisque paradoxalement, ce sont les neurologues s'occupant des maladies des nerfs qui vont reconnaître que l'hystérie est une maladie psychique, enfin qui vont permettre plutôt de reconnaître, grâce à Freud notamment, et Janet d'une certaine façon, que l'hystérie, par exemple, c'est une maladie psychique. Donc c'est paradoxal, c'est-à-dire que c'est justement avec un pas de côté par rapport à la maladie psychiatrique qu'on va reconnaître le caractère psychonévrotique, si vous voulez, de certains symptômes. Par rapport à ce qu'évoquait Steve de Mazeux tout à l'heure, je crois qu'il faut quand même tenir compte à la fois des problèmes internes à des modes de connaissance ou à des pratiques thérapeutiques, c'est-à-dire, on va dire, la validité de ces théories ou la validité de ces pratiques, et puis le milieu dans lequel elles apparaissent, où elle se trouve en crise ou en déclin. Et là, je crois que les conditions sociales de possibilité d'une théorie ou d'une pratique sont extrêmement importantes. En tout cas, pour moi, c'est l'apport de Michel Foucault. Ça, c'est très clair. Donc, si, à partir de 1980, par exemple, la psychanalyse se trouve en crise aux États-Unis, et si on préfère des méthodes de type de psychologie différentielle, questionnaire, DSM, manuel donc de diagnostic statistique des troubles mentaux, si on préfère revenir vers ce giron d'une médecine mentale qui se transforme en orthopédie sociale, c'est-à-dire qui finalement cible l'individu à risque, c'est pas, à mon avis, simplement pour des raisons scientifiques, c'est pas pour une crise. Il peut y avoir des facteurs de cet ordre, mais c'est aussi lié à un changement dans le social, dans la culture, c'est un changement dans la manière de penser le monde. Je crois que vraiment, la psychanalyse, ça a été une révolution symbolique.
Ce pouvoir psychiatrique, est-ce que ça perfidie? Enfin, est-ce qu'il n'est pas d'autant plus puissant qu'il est plus insidieux? C'est-à-dire au moment où vous le rencontrez ailleurs que dans son lieu de naissance, lorsqu'il apparaît fonctionnant, non pas dans son domaine normal d'ingérence, qui est la maladie mentale, mais partout ailleurs. Le psychiatre à l'école, qui justement, lorsque un petit garçon ne réussit pas très bien ses examens, eh bien, vient fourrer son nez et dit « mais enfin, qu'est-ce qui se passe là-dessous ? Problème sexuel de l'adolescent, qu'est-ce que fait la famille ? Il envoie au psychiatre ou il envoie au psychanalyste. Un garçon commet un acte délictueux en prison, examen psychologique. » Il passe aux assises, examen psychiatrique obligatoire. Est-ce que tous les pouvoirs ne sont pas actuellement liés à un pouvoir particulier qui est celui de normalisation? Enfin, je veux dire, est-ce que le pouvoir de normalisation, les techniques de normalisation ne sont pas, à l'heure actuelle, une sorte d'instrument général que vous trouvez un peu partout comme sorte d'instrument général et généralement accepté parce que scientifique, qui va permettre de dominer et d'assujettir les individus. Autrement dit, la psychiatrie comme instrument général d'assujettissement et de normalisation des individus.
Là, on a fait un bond en 1975 hein, avec Foucault qui nous parle du pouvoir psychiatrique. C'était diffusé sur France Culture dans l'émission Quotidien Pluriel en 84. Cette fois, on y entend cette définition de la psychiatrie, Steve de Mazeux, comme étant une technique de normalisation qui permet d'assujettir les individus. Technique qui d'ailleurs est acceptée parce qu'elle se présente comme étant scientifique.
Absolument.
Est-ce qu'on est là dans un des travers de la psychiatrie donc qui arriverait après, bien après la naissance de la psychanalyse, qui serait contemporaine et qu'on pourrait retrouver peut-être dans le dans ce qu'on appelle le DSM. Alors je vous propose peut-être de nous dire ce qu'est le DSM avant de voir dans quelle mesure ça s'intègre dans la réflexion foucauldienne.
Alors, oui, Foucault là dans cet entretien pointe très bien quelque chose qui est en train de se produire dans les années 70, qui est effectivement ce qu'on résume sous l'idée d'une extension de la fonction psy, c'est-à-dire le fait que le psy investit tous les champs de la vie, que ce soit de l'enfance à la sexualité, en passant par les problèmes d'intelligence, etc. Effectivement, à cette même période, c'est-à-dire dans le cours des années 70, s'opère une grande révolution aux États-Unis. C'est cette période sur laquelle j'ai plus particulièrement travaillé, où une révolution nosologique se met en place, dans la mesure où la psychanalyse, qui avait un grand prestige aux États-Unis, hein, pour résumer en quelques mots l'histoire de la psychanalyse aux États-Unis, on pourrait dire que c'est une histoire d'amour fulgurante qui aboutit très vite à un divorce fracassant. Donc le divorce fracassant s'opère dans les années 70, et le DSM, qui est une classification, un gros manuel diagnostique.
Le manuel diagnostique et statistique.
Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, dont la troisième édition paraît en 1980, consacre vraiment ce divorce. C'est-à-dire que la langue officielle de la psychiatrie exclut toute référence aux notions psychanalytiques. Donc c'est une vraie révolution en ce sens. Et l'autre révolution que marque le DSM, pour rebondir sur l'extrait de Foucault, c'est effectivement l'extension considérable du cortège des troubles mentaux, c'est-à-dire que le DSM-3 recense plus de 300 catégories différentes de troubles mentaux. Alors, elle ne les invente pas, c'était déjà présent. La plupart des souffrances qui sont dénommées dans le DSM existaient, étaient cataloguées comme telles par les aliénistes au 19e siècle. Simplement, le DSM marque un tournant qu'on schématise souvent comme le tournant du passage des maladies mentales à la santé mentale, c'est-à-dire au fait qu'on s'intéresse de plus en plus aux petites souffrances qu'on trouve chez chacun, et non plus seulement aux grandes souffrances qu'on trouvait auparavant à l'asile. C'est-à-dire que le seuil d'attention clinique qu'on apporte à la souffrance psychique devient nettement moindre. On s'intéresse de plus en plus aux personnes qui ont des problèmes pour entrer dans un ascenseur, aux gens qui se lavent 20 fois les mains par jour, et non plus seulement aux grands psychotiques, aux grands mélancoliques, comme c'était le cas avant. Cette révolution...
Pourquoi est-ce un problème ?
Alors, ça n'est pas du tout un problème. C'est justement ce qu'il faut bien saisir, c'est que c'est tout à fait contemporain d'un grand mouvement institutionnel qui se passe dans le courant des années 60-70, qui est ce qu'on appelle le mouvement de désinstitutionnalisation, c'est-à-dire quelque chose qui, d'une certaine manière, marque une modernité psychiatrique. C'est la fermeture des grands asiles. Vous savez, ces grands asiles immenses où on enfermait des milliers de patients, hein, les asiles que décrit Goffman. Et on décide de les fermer en pensant qu'on les traitera mieux. C'est la grande ambition de Kennedy quand il arrive au pouvoir dans les années 60. Qu'on les traitera mieux dans la société. Donc, on ouvre des petits centres de médecine de ville qui vont prendre en charge les patients psychiatriques. Et cette nouvelle demande, cette nouvelle nécessité, demande aussi une révolution dans le discours psychiatrique, c'est-à-dire d'adapter les catégories qui étaient avant réservées vraiment aux patients les plus lourds, pour dire simplement, à des troubles qui sont moins spectaculaires. Donc vous avez les deux faces, si vous voulez, de la pièce. C'est que d'un côté, on peut voir ça comme une extension d'un pouvoir de normalisation, et c'est tout à fait juste. Et de l'autre côté, on peut voir aussi comme un souci plus grand à partir d'un moment pour la souffrance qui touche tout un chacun dans la société.
D'autant que dans le DSM aussi, si on le feuillette, on peut l'avoir sous les yeux, on voit que on peut être frappé par l'absence de termes vraiment techniques. C'est comme si le DSM était aussi s'adressait pas simplement aux experts, mais aux malades eux-mêmes, si tout le monde devient malade, en tout cas aux individus qui peuvent eux-mêmes manier ce manuel, justement, puisqu'ils l'ont entre les mains, et du coup pouvoir s'identifier à certains troubles qui sont décrits. Est-ce que c'est pas un des problèmes, ça aussi, qui permet de reposer à nouveau frais les liens épineux entre psychanalyse et psychiatrie, Roland Gori, cette disparition, cette inutilité de l'expertise pour diagnostiquer la maladie mentale?
Oui, alors, je pense que malheureusement, c'est pas quelque chose qui est en train de disparaître, l'expertise.
Malheureusement.
Malheureusement. Mmh. C'est transformer d'une certaine façon le patient en expert de lui-même, ça participe quand même d'une certaine...
Roland Gori, je crois qu'on vous a perdu, vous êtes en duplex et nous ne vous entendons plus. Alors je vais poser la question à Steve Demazeu qui a la bonne idée d'être avec nous en studio. Du coup, sur cette, est-ce que vous, oui. vous partagez-vous cette désolation de Roland Gori de l'absence de disparition finalement de l'expertise?
Alors, désolation, je ne sais pas. En tout cas, on parlait de pouvoir psychiatrique ouais. et le DSM, ce que change le DSM, donc ce simple manuel qui, comme tout manuel, doit être à portée de main dans un hôpital pour aider le clinicien à affiner son diagnostic. Ce manuel va vraiment saper l'autorité du clinicien.
C'est ça.
Donc, comme vous l'avez très bien dit, ça va saper l'autorité du clinicien. Pourquoi ? Parce que vous trouvez dans un manuel accessible à tous, comme vous l'avez rappelé, les critères qui permettent de définir ce que c'est qu'un dépressif, ce que c'est qu'un obsédé, ce que c'est qu'un schizophrène. Et en ce sens, dans un langage très clair en plus. La volonté était de réaliser ça dans un langage très clair. Alors, quand on est clinicien et on a de bonnes raisons de s'en plaindre, on peut considérer ça comme un abêtissement général, comme un aplatissement de toute la finesse, de toute la granularité de la clinique et de dire ce qui reste, c'est seulement le squelette, la sépulture de la clinique ancienne. Quand on est du côté des patients, on peut aussi dire que c'est une manière d'exiger plus de clarté, plus de rigueur aussi dans un diagnostic. C'est-à-dire que ce dont il faut se rendre compte, c'est que pendant très longtemps, le clinicien pouvait donner son diagnostic comme il le souhaitait, sans avoir justement de compte à rendre à personne. Et ça, ça a été vécu vraiment aux États-Unis, en tout cas comme un drame, comme un scandale. C'est-à-dire ce qu'on appelle en langage technique l'absence de fidélité interjuge des diagnostics. Le fait que vous alliez dans un hôpital ou dans un autre, vous trouviez des taux de schizophrénie x3. Quand on voit l'importance que c'est de recevoir un diagnostic de schizophrénie dans la vie des individus, on comprend que les psychiatres aient voulu mettre un peu d'ordre et puis essayer de restreindre la liberté des cliniciens de poser un diagnostic aussi lourd pour la vie des patients.
Roland Gori, je crois que vous êtes de nouveau parmi nous.
Oui, mais je ne sais pas à quel moment j'ai été perdu.
Mais avez-vous entendu la réponse de Steve Demazeu?
Non. Alors, j'ai entendu qu'il évoquait la question des diagnostics et de l'accord, si vous voulez, entre les différents psychiatres et les différents experts.
Voilà, de toute façon, je lui ai posé la question que je vous avais posée, donc je vous invite à continuer votre réponse sur la disparition de l'expertise en psychiatrie et sur le fait de savoir s'il fallait s'en désoler ou pas.
Oui, alors... Je crois que l'expertise s'est étendue en psychiatrie comme ailleurs et qu'elle vise à une évaluation qui est purement formelle, purement procédurale. Alors concernant par exemple le diagnostic, il est évident que le DSM-3, à partir du moment où il met en place des modes d'interrogatoire, des modes de traitement de l'information, va aboutir à un accord entre psychiatres plus grand. C'est ce qu'on appelle la fiabilité. Donc il y a un accord interjuge qui est plus grand. Ça ne veut pas dire pour autant que ce diagnostic soit davantage valide. C'est-à-dire qu'ils correspondent à une réalité clinique. Pas du tout. Ça veut dire qu'on est plus à même de constituer des populations homogènes sur lesquelles on peut essayer, par exemple, des médicaments, ou on peut également constituer des populations homogènes qui permettent de classer les individus dans des familles à risque. Il me semble qu'on perd quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que si on revient à la question de départ du côté, justement, des formes de savoir liées à des formes de pouvoir, à des pratiques sociales, on voit bien comment, aujourd'hui, finalement, le sujet n'est plus qu'un individu auto-entrepreneur, un individu auto-entrepreneur de comportement plus ou moins accepté socialement. Et on a perdu le sens de ce que signifie un symptôme, parler à quelqu'un, adresser à quelqu'un. Et là, même Charcot, qui encore une fois n'était pas du côté de la psychanalyse, mais du côté de la neurologie, même Charcot, si vous voulez, prenez en compte cette dimension humaine, et je crois que c'était un humaniste important, Charcot, actuellement on perd complètement le fil de ce côté-là. C'est terminé, si vous voulez. Et aujourd'hui, la transformation des métiers psy, on voit bien comment on les transforme en contrôleurs et gestionnaires de comportements simplement plus ou moins sécurisés. c'est une perte qui est considérable. Ceci étant, ça ne veut pas dire que la manière dont on posait les diagnostics en psychanalyse, mais en psychanalyse, vous savez, le diagnostic, il a toujours été considéré comme un diagnostic sous transfert. C'est-à-dire pris dans une situation donnée avec des individus, des sujets impliqués dans cette situation. Donc ça n'a pas du tout le même sens que le diagnostic médical ou le diagnostic psychiatrique.
Avant d'entendre justement, puisque vous en appelez à la réintroduction de l'humain au sein de toute cette entreprise de médicalisation, c'était de Mazou un mot là-dessus.
Oui, juste pour revenir à cette question des liens compliqués entre psychanalyse et psychiatrie, et pour compléter la réponse de Roland Gori, effectivement, si le DSM a vraiment mis en crise le discours psychanalytique, et si les psychanalystes sont très opposés, massivement opposés au DSM, même essentiellement opposé au DSM, c'est justement parce que le DSM a fait le pari du ce qu'on appelle le modèle médical, c'est-à-dire l'idée que les maladies psychiatriques seraient comme des maladies comme les autres, des maladies comme les autres, comme avoir une grippe, comme avoir une tuberculose, et qu'en ce sens, on doit se contenter de travailler sur la surface des symptômes. Et ça, c'est quelque chose forcément qui horripile tout psychanalyste qui, au contraire, cherche à travailler les conflits intrapsychiques, cherche à travailler derrière le symptôme. La grande différence vraiment qui va être décisive à partir des années 80, dans un choix qui va opposer, si vous voulez, les psychiatres d'orientation, on va dire, biologisante et les psychanalystes, ça va être la question de savoir quel est le but d'un bon traitement. Est-ce que c'est simplement de soulager des symptômes, ou est-ce que c'est au contraire de faire un travail qui est derrière la simple suppression des symptômes? Dans la théorie psychanalytique, le fait qu'il y ait des symptômes n'est pas forcément quelque chose de mauvais en soi, c'est justement le fait qu'il y ait quelque chose comme une tentative de guérison déjà à l'œuvre.
Listen up and I'll tell a story about an artist growing old. Some would try for fame and glory, others aren't so bold. Everyone and friends and family saying, hey, get a job. Why do you only do that only? Why are you so odd? We don't really like what you do. We don't think anyone ever will. It's a problem that you have, and this problem's made you ill. Listen up and I'll tell a story about an artist growing old. Some would try for fame and glory, others aren't so bold.
Écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h33, c'est le quatrième et dernier temps de notre série d'émissions consacrée aux mots de la psychanalyse MAUX. Et aujourd'hui, les mots de la psychanalyse mettent la psychiatrie sur le divan en compagnie de Roland Gori, qui est en duplex avec nous depuis les studios d'Aix-Marseille. De Roland Gori, qui est professeur émérite de psychopathologie clinique et psychanalyste, auteur de l'ouvrage intitulé « L'individu ingouvernable », publié aux éditions des Liens qui libèrent. Et Steve Demazeux, qui est avec nous en studio, maître de conférences en philosophie à l'université Bordeaux-Montaigne, spécialiste de la philosophie et de l'histoire de la psychiatrie, et qui a publié « Qu'est-ce que le DSM ?» aux éditions Itac.
Être avec autisme ou être autiste, c'est fondamentalement un état d'esprit, une situation, une vie différente. Mais le fait d'être sans autisme, c'est aussi une particularité. Dans une classe hypothétique où il y aurait 10, 20 jeunes enfants ou adultes avec autisme, un enfant sans autisme, c'est lui qui serait bizarre, c'est lui qui serait décalé. Donc, vous voyez, il n'y a pas de normes dans l'absolu et c'est heureux. Cela interroge plutôt l'ensemble des représentations que l'on a sur ce que c'est qu'être différent. supposons que je rencontre une personne qui n'est pas autiste, ça arrive heureusement très souvent, mais je suis obligé de jouer toute une petite comédie sociale, si vous me passez l'expression, c'est-à-dire que je dois faire au moins l'effort de regarder la personne quand je lui parle, et il faut au moins essayer d'avoir une mimique plus ou moins adaptée. Alors certes, je ne sais pas très bien le faire, mais j'essaye de le faire. Il faut essayer de faire des petits gestes, de veiller à son intonation. Par exemple, quand on pose une question, à ce qu'il paraît, il faut avoir un ton de voix ascendant. Alors, c'est de la comédie, mais sans ça, ça ne marche pas. Et donc après, bien sûr, au bout d'une journée passée à jouer à l'intermittent du spectacle, on est à la fois épuisé, parfois un petit peu dégoûté aussi, parce qu'on a l'impression de tromper les autres, mais c'est indispensable, sinon on se fait rejeter. Alors c'est vrai qu'il faut jouer la comédie jusqu'à un certain point, mais où est-ce qu'il faut s'arrêter, je ne sais pas.
Il faut jouer la comédie sociale, mais où est-ce qu'il faut s'arrêter? Je ne sais pas, c'est Joseph Chovanec qui le dit, qui c'est effectivement un autiste avec le syndrome d'Asperger, qui a beaucoup témoigné sur son expérience d'autiste et qui, là, dans cet extrait, présente l'avantage, pour le coup, de se situer non pas du point de vue de la théorie, hein, qui est le point de vue duquel on essaie d'aborder cette question des rapports entre psychanalyse et psychiatrie depuis le début de l'émission, et qui donne à entendre, finalement, à sa façon, Foucault le dit lui-même aussi, qu'il n'y a pas de normes dans l'absolu, qu'un non-autiste au sein d'un groupe d'autistes serait lui-même complètement différent, et qui permet de prendre la mesure peut-être de cette espèce de relativisme dans lequel on a peur de tomber, y compris avec cet ouvrage, hein, le DSM, parce que finalement, il n'y a plus d'hiérarchisation entre les maladies, tout le monde identifie un symptôme comme un autre. Est-ce que ce n'est pas ça un des dangers ou une des peurs que suscite l'évolution de la psychiatrie, Steve Damasio?
Oui, alors, c'est un témoignage, effectivement, tout à fait fascinant, ouais. Hein, vous voyez un patient qui reprend ce qu'on appelait la théorie de l'étiquetage, qui était une théorie très importante dans les années 70, la labeling theory, qui consiste à dire que l'un des grands problèmes posé par les diagnostics psychiatriques, c'est qu'ils vous amènent à jouer un rôle, et souvent un rôle pendant toute une vie. Et si ce témoignage est vraiment, me semble-t-il, emblématique, c'est qu'il montre bien la situation qui se pose aujourd'hui dans la négociation, dans la concertation qu'il y a avec les diagnostics, et notamment au sein même du DSM, quand il est en train quand il est fabriqué. C'est-à-dire que vous avez d'un côté des patients qui souffrent du syndrome d'Asperger, donc c'est-à-dire les autistes de haut niveau, comme on dit, des autistes qui savent parler, qui sont quelquefois même très intelligents.
Vous avez En l'occurrence, il a agrégé de philosophie,
etc. Et donc, et donc vous avez certains des patients qui souffrent de ce syndrome, qui vont se considérer comme juste différent, pas du tout malade, et donc ils vont réclamer que ce diagnostic soit retiré des manuels, puisqu'il perd sa raison d'être. Ils sont neurodifférents, si vous voulez, et donc demander qu'on reconnaisse simplement leurs différences et non plus les affubler d'un caractère pathologique. Mais vous avez d'un autre côté, pour des raisons très différentes, des patients qui se posent comme patients et qui vont demander au contraire que ce diagnostic continue d'être reconnu par le DSM, dans la mesure où c'est le seul moyen pour eux de pouvoir obtenir des programmes adaptés dans les écoles, ou de pouvoir bénéficier d'un suivi psychologique. Et donc vous avez vraiment quelque chose qui déborde de loin la question scientifique de savoir est-ce que le syndrome Asperger existe ou pas, mais qui est vraiment de l'ordre de la négociation, de la concertation entre les experts médicaux et de plus en plus les groupes de patients. Et pour l'anecdote, hein, dans le DSM-5, le syndrome d'Asperger a été retiré, et donc on a fait une sorte de recul, on pourrait dire, on va dans le bon sens, on diminue l'extension de la fonction psy en parlant comme Foucault, c'est-à-dire qu'on restreint le cortège des maladies psychiatriques, et pourtant, beaucoup d'associations aux États-Unis se sont plaintes en disant mais c'est un recul dramatique dans la mesure où nos enfants ne peuvent plus bénéficier des prises en charge auxquelles ils pouvaient...
Parce qu'ils ont besoin de l'étiquette malade.
Parce qu'ils ont besoin de l'étiquette malade pour pouvoir bénéficier de ces prises en charge adaptées.
Roland Gori.
Oui, alors le premier point, c'est je suis pas convaincu que le DSM soit l'objet essentiel de rejet de la part des psychanalystes. Moi, c'est pas le DSM 3 ou 4 et 5 que je rejette, c'est, si vous voulez, la culture qui l'a fait naître. Je crois que c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette pensée statistique, gestionnaire, elle s'est imposée, mais elle s'est pas imposée, à mon avis, pour des raisons scientifiques essentiellement. Elle s'est imposée pour des raisons culturelles, pour des raisons sociales, pour des raisons politique. 1980, c'est pas par hasard que on va dire que c'est le moment où va aussi s'imposer du point de vue de la vision du monde et du point de vue de la vision de l'humain le ce qu'on appelle le néolibéralisme. Donc je pense qu'il y a vraiment différents éléments qui participent à un moment donné à l'accueil, au rejet, à l'affinité élective, si vous voulez, d'une manière de poser les diagnostics et d'une manière de penser le monde. Alors après, par exemple, effectivement, si vous prenez la question du diagnostic, en psychopathologie, on va dire, c'est pourquoi faire ? Pourquoi faire ? S'il s'agit de poser des diagnostics pour traiter chimiquement les patients, bon, pourquoi pas utiliser le DSM ? Moi, j'ai rien contre, c'est pas ça le problème. Par contre, s'il s'agit de prendre en charge la souffrance psychique, c'est autre chose qui est en jeu. Et là, on touche un point extrêmement important, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait à un moment donné que l'on va, pour les souffrances psychiques et sociales, avoir des concepts et des pratiques différentes. Par exemple, je prends juste cet exemple, quand vous prenez dans le DSM-5, c'est la cinquième version, mai 2013, l'émergence d'un nouveau diagnostic, la syllogomanie. Qu'est-ce que c'est la syllogomanie ? C'est la compulsion à accumuler des objets inutiles. Eh bien, si vous voulez, ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est qu'on ne se demande pas dans quelle mesure ce diagnostic est lui-même corrompu par les pratiques et les idéologies d'une société de consommation et du tout jetable. Donc, ça, Foucault a quand même insisté là-dessus, c'est-à-dire que la manière dont on diagnostique les souffrances psychiques et sociales est fortement dépendante des valeurs en œuvre à un moment donné dans une société.
Steve Demasse.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Roland Gori. La question qui nous intéresse déborde de loin le cadre strict du DSM. Et effectivement, il faudrait replacer le DSM dans la culture qui l'a fait naître. Mais justement, alors si on essaie de remonter à la question de fond, c'est-à-dire pourquoi la psychanalyse a tant de mal à s'intégrer dans la psychiatrie et pourquoi elle est rejetée de plus en plus aujourd'hui. Il faut d'abord, peut-être même par souci de justice épistémologique, rappeler que dans la psychiatrie, il n'y a pas que la psychiatrie DSM d'un côté et puis la psychanalyse. Il y a quatre grandes écoles en psychiatrie. Il y a la grande tradition biologique, qui a toujours été très très forte, c'est-à-dire qui recherche les causes des maladies mentales dans des dysfonctionnements du cerveau. Il y a la psychanalyse, évidemment, qui a été extrêmement importante, novatrice, et qui recherche la cause des maladies mentales dans des conflits intrapsychiques. Mais il y a deux autres écoles qu'on oublie trop souvent de mentionner, et qui pourtant restent vivantes et très pertinentes sur beaucoup de questions. C'est l'école existentialiste ou phénoménologique, qui cherche au contraire à rendre... à comprendre le monde dans lequel vit le malade et à lui rendre le sens des symptômes sans forcément en chercher une causalité
intrapsychique. Là, c'est plus du point de vue médical.
Donc, c'est pas du point de vue médical, mais ça a eu une grande influence. D'accord. Il y a encore des grandes écoles des approches phénoménologiques, par exemple à Marseille, à l'intérieur même des institutions psychiatriques. Il y a eu de grandes. Alors, les grands auteurs de cette approche phénoménologique, c'est Ludwig Biswanger, qui était un grand critique de Freud, c'est-à-dire qui reprochait à Freud son naturalisme invétéré, et en France, Eugène Minkowski, plutôt bergsonien, et qui va proposer une approche très originale de la schizophrénie, comme une perte de contact avec la réalité extérieure, et donc aussi une approche originale de traitement qui va consister à travailler véritablement sur le monde très particulier de la maladie, et le problème de choix vraiment que ça pose aux individus qui souffrent. Donc ça, c'est une école qui existe encore et qu'il est quand même bon de mentionner. Et enfin, la dernière grande école en psychiatrie, c'est la psychiatrie sociale, en tout cas celle qui insiste sur les déterminants sociaux des maladies mentales. Et c'est là encore aussi une approche qui est importante et qui a une certaine vitalité.
Mais alors Roland Gori, quand même, puisque vous avez tenu à inscrire toute cette réflexion dans un contexte, vous parlez de la culture qui a conduit au DSM et pas tellement le DSM lui-même, et vous avez raison, vous faites le constat dans votre livre quand même d'une forme de... Vous vous demandez en quoi la révolution symbolique que fut la psychanalyse ne répond-elle plus aux attentes collectives d'aujourd'hui? Et c'est là où c'est intéressant de poser cette question à travers les liens de la psychanalyse à la psychiatrie, me semble-t-il.
Oui, alors, si vous voulez, je suis un peu gêné depuis le début de l'émission sur ce lien que vous tenez à faire, me semble-t-il, entre psychiatrie et psychanalyse. Moi, je suis pas sûr du tout qu'il y ait une si grande proximité, une si grande familiarité, même dans l'opposition, hein, pas seulement en termes d'affinité élective, mais même aussi en termes de rejet entre psychiatrie et psychanalyse. Je crois que, justement, la psychanalyse, elle émerge à un moment donné presque comme un savoir anthropologique qui permet à l'individu qui voit dans le social son assujettissement par la révolution industrielle, qui voit du point de vue des découvertes neurophysiologiques son assujettissement par le réflexe nerveux, etc., ce que Gaucher appelle l'inconscient cérébral, etc. Si vous voulez, il propose une autre manière d'être libre, une autre manière de s'émanciper, c'est-à-dire en considérant que ce qui pose problème, ce qui fait symptôme, ces souffrances dont on voudrait se débarrasser, c'est en même temps un lieu d'expression d'une vérité refoulée, conflictualisée. Et ça, c'est tout de même formidable, et à mon avis, ça ne peut pas justement basculer du côté de la psychiatrie ou du côté de la médecine. Moi, je pense, là je m'appuierai alors à nouveau sur Foucault, je pense que la psychiatrie s'appuie sur l'institution médicale pour imposer une logique de pouvoir, et pas pour des raisons scientifiques. Alors, il n'empêche, comme le disait Steve de Mazeux, qu'on peut avoir différentes approches des souffrances et des symptômes. Ça, j'ai rien contre. Moi, je suis pour la biodiversité épistémologique. Donc, on peut avoir plusieurs méthodes, plusieurs théories, c'est pas ça. Mais la psychanalyse, à mon avis, elle est, même si elle est née dans la filiation avec la psychiatrie, et plutôt, comme j'ai essayé de le dire pendant toute l'émission, oui, avec la neurologie, paradoxalement, vous voyez, elle est quand même une manière de concevoir et le diagnostic et le traitement qui est extrêmement éloignée de la médecine. Et aujourd'hui, effectivement, la médicalisation des comportements emprunte plutôt, je dirais, à une pensée assurantielle, à une pensée de compagnie d'assurance, parce qu'il n'y a pas que le DSM. Aujourd'hui, la chose la plus importante, c'est peut-être l'arrivée de la psychiatrie actuarielle qui considère que l'individu n'est finalement rien d'autre qu'un produit financier comme un autre et qu'on va déterminer la probabilité de voir émerger des comportements indésirables, de voir émerger des comportements antisociaux. Et on va le faire avec les mêmes méthodes qu'une compagnie d'assurance pour déterminer une prime d'assurance vie.
Mais
donc c'est
bien
ça le problème.
Mais tout à fait, mais c'est bien pour ça. D'ailleurs, je suis ravie que vous l'ayez dit de manière aussi explicite. C'est bien d'où la présence de votre présence au sein de cette émission, pour bien distinguer justement. Et d'ailleurs, votre point de vue, en insistant pour distinguer au maximum psychanalyse et psychiatrie, est déjà un parti pris en soi. Hein, c'est une manière de définir la psychanalyse en l'éloignant de la psychiatrie, ce qui véhicule une certaine conception de la psychiatrie, Steve de Mazeux.
Oui, le grand problème théorique qui se pose à partir vraiment des années 70-80, c'est-à-dire un problème d'épistémologue, c'est la révolution des neurosciences. C'est-à-dire que les neurosciences vont vouloir dire leurs mots sur les causes de la maladie psychiatrique. Et le grand désamour des Américains pour la psychanalyse tient au fait qu'ils, contrairement aux Français, ils avaient beaucoup parié sur la scientificité de la psychanalyse, ils avaient beaucoup parié sur le fait qu'on pouvait l'inclure dans la médecine, beaucoup plus qu'en France. Et à partir des années 80, si vous voulez, ils mettent leur bille ailleurs et ils pensent qu'au contraire, l'avenir de la psychiatrie, son devenir vraiment scientifique, se trouvera dans les sciences du cerveau plutôt que dans les tréfonds de la psyché humaine.
Psychosomatic.
That boy needs therapy.
Lie down on the couch.
What does that mean?
You're a nut. You're crazy in the coconut.
What does that mean?
That boy needs therapy.
I'm gonna kill
that
you.
That boy needs therapy.
Miami Gazoo, let's have a tune. All right, count three.
That
boy needs therapy.
He was white as a sheet.
And he also made false teeth.
Business continues below.
Did I ever tell you the story about
cowboys, midgets, and the Indians, and frontiers, psychiatrists?
I felt strangely hypnotized.
Un grand merci à vous, Roland Gori et Steve Demazeau. Roland Gori, vous étiez donc en duplex depuis Aix-Marseille. Et de vous, on peut lire L'Individu Ingouvernable aux éditions Les Liens qui Libèrent, ainsi que La Fabrique des Imposteurs aux éditions Actes Sud. Steve Demazeau, quant à vous, vous étiez avec nous en studio et vous êtes l'auteur de Qu'est-ce que le DSM, publié aux éditions Itac.
Frontier Psychiatry.
Écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Encore 2 minutes, papillon, il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Mosna-Savoie.
Avec un petit texto, tu peux séduire, tu peux aller vers une fille beaucoup plus facilement que dans la vie, tu peux même installer de l'ambiguïté grâce à 3 points de suspension. Hein? Ouais, attends, l'équivalent de 3 points de suspension, c'est genre... Veux-tu boire un verre avec moi ? 3 points de suspension.
Dans son introduction à la psychanalyse, Freud nous encourageait à ne pas mépriser les petits signes, car ils peuvent, je cite, « nous mettre sur la trace de choses plus importantes ». Eh bien, tel serait le cas de ces petits signes, ces 3 petits points de suspension qui ont la particularité de ne pas vraiment ponctuer la phrase, à l'inverse du point seul et autoritaire, mais au contraire de la laisser s'étendre et installer un peu d'ambiguïté, comme le dit Gad Elmaleh. Et de fait, c'est au XVIIIe siècle, en plein courant libertin, que ces points se multiplient, et ça c'est Julien Rau qui le dit dans son ouvrage joliment intitulé « Poétique du point de suspension, essai sur le signe du latin ». Cachez donc ce sein, mais avec des points de suspension s'il vous plaît. Cachez, mais pour mieux dire, car pour reprendre Bachelard, c'est à une véritable psychanalyse du texte qu'il nous invite, en tenant en suspens ce qui ne doit pas être dit explicitement. Équivocité, suggestion, altération, mais aussi mouvement et prolongement, on peut mettre derrière ces trois points à la fois tout et rien, quelque chose que l'on veut signifier sans le dire pour autant, en le laissant deviner et déchiffrer à son destinataire. Car voilà, peu importe ce qu'on met derrière ces points, ce sein caché ou plus si affinité, l'important c'est d'y voir un acte de contestation subtile, un acte transgressif sans en avoir l'air, loin de l'indignation trop explicite et plus proche de l'ironie agaçante. Et surtout, un choix de ne pas tout dire tout en montrant que l'on ne dit pas, mais pas à n'importe qui, car c'est bien de la connivence, du partage entre une personne qui sait ce que l'autre veut dire, dont ces points sont le signe.
Merci Géraldine, et couvrez donc ce sein.
Oui.
Car Molière dit bien couvrir et non pas cacher, n'est-ce pas ?
Pardon.
Passionnant cet ouvrage sur le point de suspension.
Passionnant, poétique du point de suspension, c'est de Julien Rau et c'est paru aux éditions Cécile de Faux.
Un grand merci Géraldine et merci à tous. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour les chemins du vendredi avec une journée spéciale que France Culture organise sur les routes de l'exil. Et bien demain pour l'occasion, nous recevrons Étienne Tassin, le philosophe Étienne Tassin qui travaille sur le thème de la condition migrante et de la citoyenneté, qui viendra donc nous donner son analyse des migrants et de l'exil aujourd'hui avec des lectures toute la journée de l'écrivain Atik Raïmi. Et puis aujourd'hui même sort en kiosque, chers auditeurs, le dernier numéro de Philosophie Magazine, le numéro d'octobre, avec le titre suivant « Être ou avoir, posséder a-t-il encore un sens ?» Vous y trouverez aussi un dialogue entre André Comte-Sponville et Charlotte Casiraghi. Cynthia Fleury aussi, qui nous affirme que la vérité est douleur. Et un petit cahier central très intéressant sur Emerson et la confiance en soi, préfacé par Sandra Logier. D'ici demain, si vous voulez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez non seulement la réécouter, mais aussi la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter, où nous attendons vos remarques et commentaires.